Nous sommes très heureux de, et très contents, même honorés de vous accueillir pour ce 5e chapitoscope. Les 4 premiers avaient eu lieu à Créon, et puis le dernier a eu tellement de succès qu'on avait du mal à accepter tout le monde sur le terrain. On a dû trouver un terrain plus grand et on a atterri sur ce site magnifique à la Somme Majeure. Magnifique et un peu humide, je dois le dire, depuis son ouverture. Voilà, mais on est très contents d'être ici, on a de la place pour s'épanouir.
L'idée, c'était pas forcément à la base en fait d'accueillir que du cirque. Hein. C'était de déplacer le spectacle hors des salles de théâtre qui sont parfois peu poussées par certaines catégories de la population qui s'imaginent qu'ils n'ont pas les clés ou les codes pour les pénétrer. Et là, l'idée, c'était de dire, ben, on vient nous poser des chapiteaux, des scènes extérieures, là où vous habitez. Le pari a été assez gagné parce qu'on s'est rendu compte du coup qu'on pouvait décliner le même genre de propositions artistiques qu'on faisait en salle, donc des écritures plutôt contemporaines, assez exigeantes, de qualité, pour un public voilà, qui n'avait pas forcément l'habitude en fait, de venir voir ce genre de spectacle.
La Rurale, c'est une association créonnaise qui, tout au long de l'année, programme, diffuse et crée des événements dans tout genre, accueillant des spectacles en tout genre. Elle cherche à mettre elle-même en scène ses valeurs en s'aidant de toutes les esthétiques, que ce soit la danse, la musique, le théâtre, le cirque, etc. Elle s'adresse au cœur des villages, dans les écoles, les établissements spécialisés ou toute autre institution où elle partage, organise des rencontres avec le monde du spectacle. Aujourd'hui, les réponses aux problèmes de la société sont principalement envisagées en termes financiers et économiques. Et c'est vrai que pour créer des événements comme celui-ci, ben, il faut un petit peu d'argent. Mais cela ne doit pas s'arrêter à cela. Les débats de société dans les médias, les meetings, les parlements ou les ministères traitent rarement les problèmes du monde en termes de joie de vivre, d'échange, de création, de paix et d'amour. Qui pose vraiment ces questions? Ce sont peut-être justement les artistes et les spectacles. Et pourtant, nous constatons que la culture, ces derniers temps, était une grande absente des grands débats nationaux. J'ai essayé de trouver une définition du mot « culture » qui pourrait correspondre à ce qu'on fait ici à l'heure rurale, et voici ce qu'il m'est venu. La culture, c'est ce par quoi je suis né, c'est ce par quoi je veux grandir, et entre les deux, c'est ce que je suis ici et maintenant. La culture, c'est ce ciment qui nous lie dans nos différences. La Rurale est une association, et c'est sa force. Rien n'existe sans les autres. Et si un maillon de la chaîne manque, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Merci à vous tous donc. Vous qui êtes ici présents, et puis tous ceux qui ne sont pas là ce soir, qui ont aussi participé à ce projet magnifique, donc d'avoir apporté d'une manière ou d'une autre votre contribution à cet événement. Merci beaucoup.
dans le travail de la rurale et puis dans tout ce que propose la rurale, il y a une forme d'éducation et c'est le cas de beaucoup de festivals. Il y a des festivals, moi, que je fréquente depuis des années, par exemple le festival du Zest, le festival des sous-fifres, et ici aussi, là, ça fait des années que je viens voir toutes les propositions de la rurale. On croise des enfants qui sont vraiment très jeunes, et quelques années plus tard, 10 ans plus tard, on les retrouve sur scène, ou alors on les retrouve autour du plateau parce qu'ils n'ont pas voulu monter sur scène, mais en tout cas, ils sont là pour construire un spectacle, monter des chapiteaux, etc. Il y a véritablement cette idée d'éducation, et vous faites également un gros travail là sur tout le territoire autour de Créon, la Sauve Majeure, pour donner la main aux populations et aussi aux jeunes, aux enfants.
Effectivement, donc on a comme deuxième mission dans cette association, donc la première mission, effectivement, c'est la diffusion, la programmation. Ensuite, on a ce qu'on appelle dans notre jargon la médiation culturelle. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est de mettre en lien les œuvres avec les publics. Donc en fait, ma collègue Marie, elle a un temps de son travail qui est dédié à la mise en place de projets d'éducation artistique et culturelle sur le territoire du Créonnais. En priorité, et pour exemple, effectivement, autour de Chapitoscope, c'est quasiment 1000 scolaires qui vont venir du lundi jusqu'au vendredi, du lundi 20 au vendredi 24, faire des visites guidées de chapiteaux, rencontrer des artistes, faire des bords de scène, visiter la circomobile, un outil pédagogique artistique qui a été initié par le service culturel de Bègles. Par ailleurs, il y a eu certaines écoles qui, toute l'année, ont fait des ateliers cirque avec des artistes de cirque en temps scolaire. Ils sont aussi venus voir des spectacles dans le cadre de notre saison culturelle, mais aussi vont venir en voir dans le cadre de Festival Chapitoscope. Là, on est vraiment, en fait, sur les enfants et les établissements scolaires. Mais il y a aussi tout un boulot avec d'autres publics, des aînés, des ados. Effectivement, une de nos missions, c'est vraiment d'éduquer. J'aime pas ce mot, quoi. Ça veut dire que... Mais en tout cas, permettre au plus grand monde d'avoir accès à la culture, en fait. Clairement, simplement. Et il y a certains gamins, tu sais bien, ils vont... Des fois, tu poses la question dans la classe, et même des fois dans le collège, hein, lycée. Lever la main, ceux qui n'ont jamais été voir un spectacle, mais t'en as pas mal, en fait. Hein. Et ça me paraît complètement fou, mais c'est la vérité. Puis après, il y a une deuxième dimension, c'est qu'on est une association. Il y a une vie bénévole très, très riche que les salariés aussi doivent animer, soutenir, accompagner, en lien avec le conseil d'administration. Et on est, enfin, en tout cas, on a très envie de permettre à nos propres enfants et qui grandissent adolescents d'être aussi bénévoles dans ces festivals. Alors c'est cadré, hein. Ils signent des papiers, des choses, tout ça, mais en tout cas, ils sont là au milieu des bénévoles. Il y aura des gamins à l'entrée de Chapitoscope qui vont accueillir le public avec des adultes. Et ça change aussi la donne et la couleur de l'accueil des publics, quoi. Il y a une transmission qui est essentielle, en fait. C'est qui va faire tout ça demain, hein ? Il faut que ça continue à vivre, en fait. Donc, il faut qu'il y en ait au moins quelques-uns à qui on transmette la joie de créer ce genre d'événement.
Julie, est-ce que vous connaissez le minimum fanfare ?
Ah oui, très très bien, ouais.
Ouais, mais vous avez l'air désolé de le connaître.
Il y a mon papa dans le minimum fanfare.
Ah oui ?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il fait ?
Bah, il fait de la batterie.
Il n'y a pas de batterie dans le minimum fanfare ?
Si.
À roulette ?
Non, mais en fait, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ah oui, c'est de la caisse claire.
De la caisse claire, d'accord. Trompettiste, du coup ?
Oui, trompettiste, exactement.
Vous êtes tout seul ce soir ?
Non, du tout. Non.
Non, il y a normalement plus de trompettes dans le minimum.
Il y a tonton avec moi.
Tonton.
D'accord. C'est un phénomène dans l'entre-deux-mers. Tonton Belmi, ouais. Une brute épaisse.
C'est vrai ?
Une brute épaisse de la trompette. Un tueur né pour les octaves et les arpèges.
Mais il le sait pas. Lui-même le sait pas, mais c'est un tueur.
Ah, il sait pas qu'il est brut ou épais
est
bon. Ou...
Alors il sait qu'il est épais, oui, parce que là il a maigri quand même, donc il sait qu'il était épais. Mais il est très modeste. Ouais, c'est un trompettiste modeste, comme on en fait très peu aujourd'hui au final.
Et vous êtes un tromboniste modeste ?
Alors non, moi je me prends vraiment pas pour de la merde pour le coup. Et pourtant je suis le plus mauvais d'entre nous. Mais
D'entre vous, pardon.
D'entre nous, ouais.
Alors le minimum fanfare, ça existe depuis combien de temps?
Entre 7 et 15 ans, normalement.
Ah ouais, quand même.
C'est comme le carbone 14, il y a une datation à peu près approximative, on va dire.
Ben, je dirais pas mieux. Pour la datation, je t'ai pas né quand ils ont commencé. Donc.
C'est vrai?
C'est vrai.
Et vous êtes arrivé comment alors?
Alors moi, je suis arrivé par tectonique des plaques. En fait, il faut savoir que le minimum, c'est un repère d'anciens josémiens. Donc par josémien,
le jeune orchestre symphonique d'Entre-deux-Mers.
Merci pour la culture. Donc en gros, le minimum fanfare, c'est le ramassis des cuivres qui ont mal fini du josème. Donc pour l'instant, il y en a une dizaine. Au fur et à mesure, il y en a qui vont peut-être arriver s'ils finissent mal.
Qui a fait la voiture balai, en fait?
Eh bien, celui qui bossait dans le tri sélectif. Donc, c'était Nicolas Lescombe.
Qui n'est pas là ce soir.
En fait, alors, à la base, la création de Minimum Fanfare a été en corrélation avec le changement de chef du Josem. Et donc... Non, c'était avant ou pas?
C'était dans les grandes œuvres de Nicolas Lescombe. Il avait signé un contrat en Belgique. Il avait vendu du rêve à l'organisateur d'une soirée dans un bar en Belgique en lui disant « Je débarque avec un orchestre et une fanfare, on va mettre le feu. » Et en fait, ils se sont pointés à l'arrache avec Yannick et Nicolas Lescombe. Yannick au tuba avec une grosse caisse attachée dans le dos et des ficelles jusqu'aux pieds. Nicolas Lescombe avec son accordéon, sa clarinette et un clavier, et ils ont réussi à faire un orchestre mobile à deux, en fait. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça le minimum fanfare.
Mais en tant que jeune du minimum, je ne connaissais même pas l'existence, l'essence du minimum.
Bon, est-ce que vous avez déjà joué du Purcell? Parce que Nicolas Lescombe, il adore Purcell.
Oula, au Josème, oui, sûrement. Au minimum, non, jamais.
Des chansons à boire de Purcell, peut-être. Il y en a.
Des chansons à boire, oui.
De Purcell, il y en a.
De Purcell.
Ah oui, oui.
Il y en a.
Vous pouvez nous en chanter une?
Non.
Ah ben moi non plus. Alors, Thomas,
on m'a dit que Nico aimait. Non, j'allais dire un jeu de mots un peu.
Allez-y. Ah,
oui, non. Purcell sans le R, mais. c'est une blague d'Alex. Alex, ah, c'est ta blague? Ouais.
Non. Vous avez une carte de presse pour faire ça?
Absolument pas, mais non.
Forcément, ça m'étonnait aussi. Chapitoscope. D'accord.
Bon, et le répertoire, ce sont des créations, c'est des compositions à vous, ça?
Oulala, Il y a de tout. Il y a des compositions, purement minimum fanfaresques, comme le tube, on peut l'appeler le tube, parce que je pense qu'il a plus de 1000 vues... sur l'internet, il s'appelle le Dindon. Donc là, c'est vraiment le succès du groupe. Et
on
après,
à ce moment-là, on va la jouer tout à l'heure, là, dans à peu près 20 minutes.
Et après, il y a des reprises de groupes très connus, comme des reprises d'Ibrahim Malouf, des reprises de Snarky,
Youngblood Brass Band, Hypnotic Brass Band. Des trucs en brass band, en fait.
Bon, alors là, vous êtes prêts? Dans quelques minutes, le public va sortir du chapiteau rouge, du chapiteau scope. Ouais. Vous êtes prêts, là?
Prêt, on est toujours prêt, en fait, même quand...
Quand on l'est pas.
Même quand on l'est pas, ouais. Il suffit d'une petite Saint-Léon. Placement de produit, je sais où j'ai.
T'es payé, toi, sur ça?
Non, mais j'ai pas eu le nom.
Très bien, écoutez, merci. Je peux avoir vos prénoms?
Alors, c'était Thomas au trombone.
Nico à la trompette.
Merci beaucoup.
Et vous, votre petit
prénom? Moi, c'est Didier au micro.
Didier, enchanté. Enregistre, suis le concert, enregistre. Parce qu'on aura besoin des bandes après.
On peut faire un petit débrief après, si tu veux. Thank you.
C'est la deuxième journée du Chapitoscope 2019. Je suis avec Maxime Mestre. Maxime, vous faites partie du cheptel Aleikoum. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est ce groupe, ce collectif, je dirais même cette famille? Est-ce que c'est un terme, sa famille, qu'on peut employer pour le cheptel Aleikoum?
Ben, pourquoi pas, oui. Effectivement, le cheptel est un collectif d'artistes de cirque. Voilà, qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est installé en région centre, qui crée des spectacles, principalement des spectacles qui sont créés collectivement. Et aujourd'hui, famille, oui, on a tous des enfants, et selon les projets de la compagnie, nos enfants nous accompagnent, et il y a une institutrice et une nounou qui sont avec nous, ainsi qu'un cuistot. Enfin, il y a une grosse équipe qui fait que la vie de campement... est vraiment intégré à l'ensemble du projet finalement artistique, quoi, en tournée ou en création.
Je dirais également, pour avoir vu pas mal de propositions du cheptel, hein, on parlait là en venant s'installer ici du la Circade Suica des princesses, et on va parler du spectacle que vous avez joué mercredi après-midi, que vous allez jouer ce soir également vendredi. Le spectacle s'appelle Interprète au singulier, je crois. Hein. Oui. Que ce qui caractérise le cheptel à Leïcoum, c'est que vous êtes tous des hyper circassiens, je dirais. Vous êtes capables de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses du cirque, du trapèze, et puis tout un tas d'autres choses.
Ben, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est propre à l'artiste de cirque en général, dans la mesure où on est peut-être curieux et on aime mélanger un peu les différentes pratiques. Dans Interprète, je pratique principalement la corde volante, qui est mon agrès de cirque que j'avais choisi de travailler, on va dire, en précision quand j'étais au CNAC, que j'ai appelé escarpolette puisqu'elle est assez proche du sol, et donc c'est en fait l'escarpolette, c'est l'ancien nom de la balançoire. Mais les pratiques ici dans Interprète, elles sont, par exemple, je fais pas spécialement de musique. Je chante un petit peu, mais c'est pas majeur. Alors que disons que ce qui se passe dans les spectacles du cheptel, c'est que la musique est toujours jouée en live. C'est quelque chose qui a été maintenu pendant quasiment toutes les créations du cheptel, sauf celle-ci, puisque comme je suis seul, du coup ça devenait compliqué qu'à la fois je joue de la musique, que je m'auto-accompagne finalement. Et c'est pas non plus mes partenaires du cheptel qui là ont eu un autre rôle, c'est-à-dire celui de la mise en scène. Ils n'ont pas non plus joué de musique, à une exception près.
Alors c'est un solo, mais c'est un solo collectif. C'est un solo où si vous étiez vraiment seul, il n'y aurait pas de spectacle. Par exemple, vous avez absolument besoin du public. C'est une nécessité, le public. Alors évidemment, c'est une nécessité parce que pas de public, pas de spectacle. Mais là, véritablement, c'est une nécessité. C'est aussi une des marques de fabrique, je dirais, du cheptel à Leïcoum. Les princesses, par exemple, on faisait appel au public dans les princesses. Mais là, vous n'êtes pas seul. Il y a le public. Il y a de nombreuses personnes là qui vont intervenir en voix off.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dans Maintenant ou Jamais, qui est la création qui tourne encore de Circa Truca, le public, il est aussi sollicité. Et effectivement, c'est la deuxième marque de fabrique du cheptel, tout à fait. La première étant le fait de jouer de la musique, et la seconde étant le questionnement de la place du public et du coup de son, voilà, et de son rôle, en fait, lors de la représentation.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne. Là, par exemple, mercredi, c'était pas un public facile. Hein. Il y avait beaucoup d'enfants très jeunes. On peut imaginer aussi que c'était la première fois que des enfants ou une partie du public voyaient un spectacle comme celui-là. On vient ici, on voit un chapiteau, donc on va voir un spectacle de cirque. C'était pas forcément facile. Et pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne. C'est que le public joue le jeu. Alors, des fois, il faut un peu les pousser, mais le public joue véritablement le jeu. Il y a une magie, quoi.
Ben, c'est vrai que là, il est indispensable au début du spectacle. Et c'est tout à fait l'enjeu du parcours de l'interprète, puisque un interprète existe si le public est là. Et donc, dans mon parcours, qui est celui de l'interprète, je commence par... par effectivement faire comprendre ou faire agir le public pour que sa place soit vraiment marquée et indispensable. Puis une fois que cette place-là est acquise, on va dire, bon, j'espère, hein, mais en tout cas c'est l'idée, que le public soit vraiment pris et comme excité parce qu'il a un vrai rôle d'acteur, une fois que le public est là et que cette place est acquise, alors arrive la question et le rôle du metteur en scène. Parce que l'interprète n'existe pas non plus sans metteur en scène.
Vous commencez, je vais dire, les pieds sur terre. Alors je dis ça parce que je crois que les premières paroles, on a l'impression qu'il ne se passe rien parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. C'est une parole qu'on entend dans le générique d'une émission qui doit tout le temps exister, je crois, sur France Culture, qui s'appelle Les pieds sur terre. Ouais. Moi, je trouvais ça hyper amusant que vous, le circassien, là, un champion de l'escarpolette, vous commenciez par nous dire, d'une manière cachée, hein, moi, j'ai les pieds sur terre.
C'est vrai. Eh ben, il faudra questionner Charlotte Rigaud, qui est l'autrice de cette première proposition de mon parcours d'interprète. Et Et effectivement, on démarre les pieds sur terre pour finir, vous verrez comment en venant tout à l'heure, mais est-ce que j'ai les pieds sur terre? Oui, on a besoin là, d'avoir les pieds sur terre, forcément. On est complètement connecté à la réalité et au monde qui nous entoure, même si on... Enfin, je dis on, en tout cas, même si moi j'ai besoin de m'en déconnecter aussi, ce qui me rend parfois malheureux, mais il faut avoir les pieds sur terre. Ouais.
Bon, évidemment, vous avez des chaussures, et vous avez une passion des chaussures. Alors déjà, j'allais vous demander votre pointure.
42.
Et je voulais savoir si parmi ces chaussures, il y en avait certaines, notamment celles à talons, si elles avaient été faites sur mesure.
Non. Je les ai trouvées dans une boutique incroyable à Londres où c'est plutôt des chaussures de femmes. Et toutes les chaussures qui sont proposées là-bas vont jusqu'au 42. Mais si les chaussures sont là, c'est justement parce que... Je pense qu'on, en termes d'identité ou d'identification, on identifie quelqu'un principalement ou en tout cas premièrement par son apparence. Et l'apparence va de la tête aux pieds. Les pieds sur terre, mais en tout cas de la tête aux pieds. Et qu'est-ce qui chausse nos pieds? Des chaussures. Donc les chaussures reflètent une forme d'identité. D'où la multitude de paires de chaussures. Et je viens d'en acheter une autre, parce que je reviens d'Espagne, du sud de l'Espagne, et j'ai acheté une paire de chaussures pour danser le flamenco. Et je compte bien progressivement intégrer un pas de flamenco dans l'interprète. Voilà.
Et ces bottes en corde, vous les avez trouvées dans quel port de pêche?
On les a fabriquées nous-mêmes. Et à partir de... Voilà, on a tout simplement collé du chanvre autour de bottes en caoutchouc.
Et elles sont assez impressionnantes d'ailleurs. On a vraiment l'impression que vous allez être du coup là, que vous allez avoir du mal à vous envoler, quoi. Vous êtes vraiment collé au sol.
Ouais, c'est vrai, elles pèsent. Je suis bien ancré au début. J'ai vraiment bien les pieds sur terre au début, c'est vrai.
Alors, on va pas dévoiler, même si c'est tout à fait le verbe qu'il faut là, le tout début du spectacle. Mais vous pouvez nous expliquer ce qui vous a pris.
Alors, c'est toujours en relation avec Charlotte, dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est cette séquence-là. L'idée est venue de cet habillage ou de ce déshabillage-là. L'idée est venue de la forme, en fait, à laquelle on a cherché le fond qui pouvait correspondre à cette forme. Et puis, il est devenu évident que pour pouvoir démarrer un parcours d'interprète, alors il fallait se mettre à nu. Pour pouvoir démarrer quelque chose, pour pouvoir démarrer une histoire, une aventure avec le public, puis après avec les metteurs en scène. Voilà, c'est une mise à nu pour symboliser un commencement.
Mercredi, je suis venu avec ma fille qui a 14 ans et puis deux amis à elle qui ont 13 ans et demi. Et il y a eu évidemment une très grosse discussion sur le spectacle après. Et puis justement sur le départ, parmi ces trois-là, il y en avait qui trouvaient ça, qu'ont pas compris, qu'ont trouvé ça absolument gratuit. Et moi, j'expliquais qu'on pouvait l'entendre comme ça, un acte gratuit, un peu provoquant, mais que d'une certaine manière, il fallait quand même oser aussi montrer un corps. C'est pas, même si ça s'est fait beaucoup dans le théâtre, mais montrer son corps à nu, il y avait aussi quand même une démarche, on va dire, politique ou sociale là-dedans, parce qu'on parle beaucoup des corps, mais on en voit très peu.
Alors, loin de moi l'idée de provoquer une polémique, et c'est vrai qu'ici je ne m'attendais pas à ce que ce soit si délicat et si compliqué à gérer, alors que le nu n'est pas nouveau nulle part, que ce soit au cinéma ou au théâtre, mais dans le cirque, dans la danse, dans le spectacle vivant ou à la plage. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'anormal ou rien d'étrange qui peut être provocateur, c'est peut-être un peu dans la forme, et encore, je le dis pour faire plaisir peut-être à ceux qui se sont sentis provoqués, mais quand on est tout nu, quand on est NAIT, d'accord. Et ça, nous, si on veut le symboliser, le signifier de manière artistique, mais de manière évidente, il faut passer par là. Donc si on prend ça pour de l'exhibition ou de la vulgarité, c'est peut-être c'est un défaut d'interprétation, mais qui est propre à chacun, c'est de la subjectivité, mais en tout cas c'est pas du tout l'intention de départ, et l'intention de départ n'est pas non plus politique ou polémique, elle est simplement de partir d'une mise à nu de zéro. Thank you.
y a énormément de propositions, il y a beaucoup de spectacles. Il y a également la compagnie Burnout.
C'est une compagnie de danse qui est donc sous la direction d'une jeune danseuse touche à tout qui s'appelle Jeanne Gallois. Je vais être honnête avec toi, en fait, je ne l'ai pas vu de spectacle. Par contre, j'ai vu deux autres de ses propositions, dont le spectacle Quintet, qui est juste absolument magnifique. En fait, c'est vraiment une compagnie qui a une esthétique de danse qui me touche assez. Il se trouve que on n'avait pas les moyens de faire venir non plus le quintet. On cherchait en plus une forme courte, en fait, parce que c'est un plateau partagé. La compagnie Burnout va jouer et venir danser sous chapiteau après une proposition d'une compagnie amateur semi-pro qui s'appelle la Junior Compagnie Impulsion. Et donc, c'est une compagnie qui a été... je vais reprendre l'historique parce que c'est important quand même. C'est l'école de danse ici à Créon qui s'appelle Coréa. En fait, et donc il y a une prof de danse qui s'appelle Cécile Vasselin Mutombo qui a eu le désir un jour dans ses élèves en fait de créer une petite compagnie amateur avec ses meilleurs élèves en fait, qui lui a donné donc le nom Junior Compagnie Impulsion. Et nous, on leur a permis de faire un premier plateau il y a 2 ans sous le chapiteau. Et l'idée, c'était de travailler en commun aussi avec Cécile, la prof, en accord avec Coréart, pour qu'elle présente à ses élèves derrière aussi un travail qu'elle avait aussi envie que ses élèves puissent découvrir. Et comme elle fait, elle, un travail qui est très ancré dans la terre, beaucoup de travail dans le sol, le projet de carte blanche était aussi beaucoup dans ce sens-là et ça résonnait en fait.
Ce qui vous caractérise, vous, Carlina Cavador, vous cherchez quoi ? Vous cherchez, vous allez voir des spectacles, vous discutez avec les artistes, vous proposez également des choses aux artistes. Vous n'êtes pas là à compulser un catalogue, à vous renseigner sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, combien d'entrées a fait un tel, etc. Non, ça n'a jamais été la manière dont vous travaillez, quoi.
Bah, je le fais nécessairement parce qu'il faut bien se renseigner et on fait tous de la veille, hein, tous les programmateurs. Et puis... Il y a quand même plein de programmateurs qui font du super boulot, hein. C'est pas que Carlina Cavador, mais c'est vrai que j'ai une très forte passion. J'aime vraiment beaucoup le spectacle vivant. J'aime énormément aller voir des propositions toutes très différentes. D'ailleurs, c'est très frustrant et en même temps parfois très compliqué et très compliqué d'être un programmateur de scènes pluridisciplinaires. Parce qu'il faut être compétent partout, il faut aller voir du cirque, du théâtre, de la marionnette, du jeune public, de la musique. Et donc, c'est vrai que on est un peu obligé aussi d'affiner ses... un petit peu. Forcément, une programmation, ça ressemble forcément à une personne. Parce que tu fais des choix, quoi, tu resserres aussi. Hein. Y a aussi des fois, ce qui me plaît, c'est aussi de donner la possibilité à tes artistes de se retrouver in situ pour des expériences inédites, comme on avait fait justement il y a 2 ans, l'année dernière, en mai 18, à l'Abbaye de la Sauve, où j'ai proposé à une plasticienne de faire des dessins projetés en mapping sur les murs de l'abbaye. Ça s'est fait une fois, c'était juste magique. Et ça fait des bébés en plus derrière, c'est chouette.
Les artistes, vous allez même les chercher en Afrique, hein, au Burkina Faso.
Oui, compagnie Opus aussi, 2e fois qu'on accueille cette compagnie. On avait accueilli en mai 17 leur superbe spectacle qui s'appelle La Veillée, qui est un spectacle complètement déjanté de 3 heures autour d'un feu, un vrai feu. Et j'aime vraiment beaucoup cette compagnie qui est implantée depuis 30 ans dans la région. Et là, on a une 2e proposition qui s'appelle le Musée Bombana de Kokologo. Proposition assez drôle, toujours dans la veine des opus, avec un artiste qui vient présenter des entresorts africains complètement détournés. J'en dis pas plus, il faut venir voir, c'est assez drôle.
Autour de tout ça, il y a des choses comme, par exemple, le circomobile. Je crois que le personnage s'appelle Columbia.
Alors, la circomobile, c'est important d'expliquer ce que c'est. Alors, en fait, c'est le service culturel de la ville de Bègles, et notamment en lien avec le service médiation culturelle, qui a eu la volonté, en fait, de créer un outil qui serait à la fois un outil artistique et pédagogique, puisqu'ils ont vraiment un projet autour du cirque, hein, Bègles, Ils avaient envie de créer leur propre outil pour déplacer en lien avec les projets des écoles, avec les publics, pour raconter aussi l'histoire du cirque, qu'est-ce que c'était. Donc ils ont confié la création d'un projet à Léna Dazi, qui est une plasticienne qui travaille sur des projets en miniature aussi beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu son projet Fritiket, qui était absolument magnifique. Et là, l'idée, c'est deux installations. Cette circomobile, en fait, c'est deux installations. C'est une caravane Airstream, vieux modèle, hyper belle, dans lequel les publics sont invités à rentrer dans le dispositif 3x3. Dans des cabines, avec un système de casque sur les oreilles, où tu es baladé dans l'histoire. Tu vas dans la loge de Columbia, dans son histoire à elle, de cette trapéziste. C'est son histoire, il faut venir l'écouter. C'est un petit bijou créatif absolument divin. Et à côté de ça, ils ont créé en fait une tente sous laquelle seront déployés, en fait, les publics vont pouvoir expérimenter les agrès du cirque, monter sur un fil, sentir les sensations. Enfin, c'est à la fois, voilà, tu vois, un outil artistique et pédagogique. Et c'est la première fois qu'il va venir se déplacer en milieu rural. Parce que il vient à peine d'être inauguré en mars et il sera à Vannes au théâtre des Quatre Saisons et il descend après chez nous à la Sauve.
Alors il y a un duo, Michel Godard au trapèze et Jennifer François au tuba, c'est bien ça ?
C'est ça, voilà. Michel Godard, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand monsieur quand même de la musique baroque et jazz. Qui joue du serpent, cet instrument.
Ah, je me suis trompé alors.
C'est l'inverse, tu t'es planté. Qui joue du serpent, cet instrument complètement bizarre, et du tuba. Donc comme nous, parallèlement, dans la saison, on accueille pas mal de musique jazz. On trouvait ça chouette. Il n'y a pas beaucoup de musique dans le Chapitoscope, mais que les deux projets, en tout cas, qu'on accueille, enfin, deux des trois projets qu'on accueille, ils aient quand même un petit lien avec cette mouvance-là. Et donc Michel, effectivement, évolue beaucoup dans des groupes de jazz, dans la pratique de jazz. Et donc, il vient ici accompagner une trapéziste qui s'appelle Jennifer François sur un nouveau projet. Je ne vais pas prononcer le nom du spectacle parce que je n'y arrive pas. C'est un peu aussi leur premier crash test, les premières, quoi.
Leur rencontre s'est faite à Créon, grâce à vous.
C'est faite à Créon, voilà. Et Jennifer, donc, effectivement, elle fait du trapèze. Et elle va venir donc poser, elle, son trapèze dans l'abbaye de la Sauve. Et Michel, donc, va évoluer en dessous d'elle avec sa panoplie d'instruments. Effectivement, ils se sont rencontrés dans le cadre du festin. Je dirais qu'il faudrait rien manquer. Mais si je dois peut-être appuyer le doigt sur un moment, c'est un moment qu'on s'y veut vraiment désirer les bénévoles, qui a été vraiment décidé collectivement, c'est la soirée du samedi soir, en fait, quand tu sors d'un plateau partagé cirque-théâtre absolument divin entre la compagnie Mathieu Maffie Foundation et la compagnie Bouche à Bouche. De se finir cette soirée par une soirée qu'on a un bal costumé, déjanté, où on a invité à la fois un groupe de musique qui s'appelle Impérial Orphéon, enfin un quatuor, un bal complètement déjanté avec des musiciens absolument monstrueux. Et en fait, toi, tu vas pouvoir aussi aller te costumer, aller changer tes fringues, Allez voir la costumerie, déshabillez-vous et enfilez des habits d'époque pour venir danser devant le bal. Et ensuite, on finira avec un DJ set. Et voilà, c'est vraiment une belle soirée festive qu'on a désirée. Festive, mais avec toujours des propositions artistiques engagées. Et voilà, ça va être une chouette soirée, je pense.
L'Orphéon, c'est un orchestre, c'est ça ?
Oui, c'est un petit orchestre. On appelle ça aussi un quartet, un quatuor, puis voilà, quatre musiciens, une petite équipe et un ingénieur du son aussi, qui est très proche du son d'Orphéon. Qui est avec nous sur tous les concerts, donc je dirais une équipe pour le son à 5.
Alors c'est Gérald Chevillon qui répondait à ma première question. On est également avec Antonin Lémarie. Gérald Chevillon, vous êtes saxophoniste basse sur ce quartet. 5 si on prend l'ingénieur du son. Antonin Lémarie, vous êtes batteur. Comment est-ce que vous l'avez constitué, cet Impérial Orphéon ? Alors qui l'a constitué déjà ?
Eh ben, une bonne étoile, parce qu'on s'est rencontrés notamment dans le groupe de Laurent Dehors, dans lequel Gérald Chevillon et Damien Sabatier ont joué pendant 10 ans. Et moi, j'ai rejoint l'équipe de Laurent Dehors pendant 2 ans. Et on s'est rencontrés là et on s'est super plu. Et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Et on a monté d'abord l'Impérial Quartet, parce que l'Impérial Orphéon, c'est au milieu d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie Impériale, dans laquelle il y a plein de projets, plein de propositions. Et la première qui a existé, c'est l'Impérial Quartet avec Joachim Florent à la basse, où on joue avec la même énergie que l'Impérial Orphéon, la même envie, mais on fait que des compositions originales. Et c'est moins axé sur le bal. Il n'y a pas du tout de morceaux traditionnels, c'est vraiment que des compos. Et on défend ce groupe depuis 7 ans. Je sais pas.
Ouais, déjà, Antonin, on est déjà presque à la 10e année. On a l'Impérial Quartet, c'était 2009. 2011, la création d'Impérial Orphéon. Tant qu'il y aura des mouettes, qui était le cirque des Galapia, qui nous avait invités là-bas. Enfin, qui avait plutôt invité aussi Antonin pour créer un petit orchestre.
C'est pas un hasard, en fait, si vous êtes là ce soir au Chapitoscope, parce que vous parlez des Galapia. Les Galapia sont des invités fréquents de la Rurale et du Chapitoscope. Les routes se croisent.
Ouais, bah effectivement, de toute façon, c'est vrai que nous, l'Orphéon, il s'est créé vraiment autour d'un cirque, autour des Galapia, autour de 2 soirées de cabaret qu'on a construit vraiment rapidement et qui étaient super. Donc on a gardé depuis vraiment contact avec le cirque. Le bal qu'on fait, il est aussi... En fait, quand on fait le concert, on est entre nous, on essaye de créer vraiment un son entre nous, une espèce de boule de feu qu'on va donner un peu aux gens et essayer de créer quelque chose avec le public et nous. Mais forcément, on lève la tête quand on joue le bal. C'est pas obligatoire que les gens dansent, mais c'est obligatoire qu'il se passe quelque chose avec les gens. Voilà. Et c'est vrai que dans le cirque, quand on fait les cabarets, qu'on est sur le plateau avec les circassiens, on est vraiment obligé de lever la tête et regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN du groupe.
Il y a aussi des voix dans l'Impérial Orphéon. Enfin, il y a une voix. Elle est utilisée véritablement comme un instrument de musique. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, moi, en écoutant l'album là, qui s'appelle Cédou Serré. C'est un chanteur, mais c'est un instrument de musique, véritablement.
Ben ouais, Rémi Poulaki, c'est un chanteur lyrique. C'est un ténor. Et super accordéoniste, super improvisateur. Et déjà, quand il fait les solos à l'accordéon, je pense depuis assez longtemps, il chante en même temps qu'il joue, en même temps qu'il invente, qu'il invente les phrases, qu'il improvise, il chante ce qu'il joue. Donc ça, c'est vraiment comme un instrument. Et après, il est aussi complètement capable de faire une chanson plus classique, on va dire, dans le rôle de la voix. Donc lui, il est vraiment complètement malléable dans toutes ses possibilités. Et il est quand même très très fort. Enfin, c'est un super chanteur, il est capable de faire des trucs assez dissociés entre l'accordéon et la voix. Donc ça nous permet une élasticité assez totale quand même.
Vous êtes quoi? Vous êtes physionomiste?
Non, je suis costumier. Vigile costumerie, je suis.
Vigile costumerie.
Ah ouais.
C'est un nouveau métier.
Ouais, c'est un métier qui existe depuis 3-4 ans, du coup, depuis le début de la costumerie. Je suis à l'entrée, j'explique. Un côté un peu grande gueule et puis surtout très baraque pour dissuader les gens.
Je vois ça.
Les éventuels risques qu'il y a.
Voilà. Bon, alors la costumerie, c'est quoi le principe?
Bah, le principe, c'est qu'on habille les gens pour qu'ils puissent aller danser un petit peu élégant. Ce qu'on a remarqué dans notre société, les gens négligeaient trop l'aspect physique à base de régulièrement des choses grises, noires, marron. Et nous, on s'est dit mettre un peu de couleur dans ce monde de cons.
Mais vous portez du marron, là? Ou du... c'est quoi? La couleur, là, de votre...
C'est du orange.
Non, et ça, c'est quoi? C'est du beige, hein?
Une petite touche de marron, mais avec un magnifique col pelle à tarte brodé. Un petit pantalon en velours à côte fine, multicolore, rayé, assez élégant. Des chaussures de récupération relativement saugrenues. Hein, je ne sais pas si vous pouvez remarquer.
Oui, parce qu'on peut même mettre des chaussures ici.
Mais surtout de la nuque longue. Ici, on adore ça, c'est très stylé. Vous, c'est pas trop votre truc dans le journalisme.
Vous voulez dire que je suis pas habillé hein?
Bah, l'élégance ou les cheveux en général, j'ai l'impression, c'est pas trop votre truc.
Les cheveux, non. Et les vôtres, vous avez une casquette?
On a des chapeaux, si vous voulez.
Les gens arrivent nus ici ou...
Non, les gens arrivent habillés moches, comme vous, par exemple. Et ils ressortent élégants et pleins de vie.
L'habit fait le moine? Est-ce que l'habit fait le moine?
Non. En revanche, la pipe fait son nid.
Bon alors, il faut parler toutes les langues quand on est physionomiste costumier.
Vigile costumier.
Vigile.
Les physionomistes costumiers travaillent à l'intérieur. Ce sont eux qui sélectionnent les vêtements en fonction de la personnalité et surtout de l'aura feng shui. Par rapport à un stage qu'on avait fait en Inde.
Et les gens sont comment? Ils sont inquiets? Ils sont comment? Ils sont impatients?
Non, en réalité c'est relativement simple, hein. Les gens sont moches et une demi-heure plus tard sont beaux. Voilà, c'est le principe de la costume. On voit une petite fille par exemple, elle est belle, parce qu'elle est déjà passée.
T'es déjà passée, Adéla?
Oui.
Oui. Alors qu'est-ce que t'as choisi?
Une jupe avec des chaussures. Voilà.
Les chaussures que t'as là? T'as pas pris des chaussures à talons?
Non.
Pourquoi?
Parce que...
T'avais pas envie?
Parce que ça fait mal.
Ah.
Et qu'on peut pas courir avec.
Vos chaussures à talons font mal et on ne peut pas courir avec.
Et ouais, c'est le principe de la chaussure à talons. En fait, la chaussure à talons, ça a été inventé par des mecs qui aimaient bien les safaris. Et en fait, ils se sont dit, tiens, ce serait rigolo, tu vois, les gazelles, comme ça court un peu, que ça part de l'arrière et tout, tu sens que c'est un animal fragile de par la longueur de sa patte. Ils se sont dit, tiens, si on faisait ça aux femmes occidentales. Et depuis, ça marche très bien, c'est beaucoup plus facile de casser des pattes arrière depuis que le talon existe.
Adéla, est-ce que tu savais que tu étais une femme occidentale?
Non.
Elle savait pas du tout.
Elle savait pas du tout quoi?
Qu'elle était une femme occidentale.
Ah bah oui, de type caucasien j'ai envie de dire, même Adéla, ça se voit. Avec tes oreilles un petit peu décollées, comme moi et ma fille, c'est très caucasien ça.
Est-ce qu'il y a des lunettes également dans la costumerie?
Et quelques lunettes de soleil, mais malheureusement les vols ayant été trop compliqués, on a décidé de réduire le volume de lunettes. On a enlevé de la pédale au niveau lunettes. Je vais faire passer la dame qui veut rendre des choses et rentrer chez elle. Elle a l'air fatiguée. Elle a son petit ticket et ses enfants. Je vais la laisser passer, excusez-moi.
Comment est-ce qu'on rend des vêtements à la costumerie?
Eh bien, on a des petits tickets. Et on les donne au monsieur qui est au comptoir. Et il nous rend la consigne et nous lui rendons les vêtements.
Ah, parce que vous avez laissé vos vêtements
oui,
ici?
Oui, tout à fait.
Ah bon? Est-ce que je peux rentrer?
Nina!
Ouais, vas-y, rentre.
Voilà. Bon, vous êtes de la costumerie ou vous êtes...
Oui.
Ouais, d'accord. Je suis de la costumière.
Alors qu'est-ce que vous faites là ?
Bah là, je remets les quelques vêtements qui sont tombés par terre pour les remettre sur le portant visible de tout le monde.
C'est des vêtements que vous achetez, vous récupérez ?
C'est des vêtements qu'on récupère. On a pas mal de partenariats avec des recycleries ou Emmaüs, tout ça. Et de plus en plus, on a des dons, des gens, tu vois, qui passent sur la costumerie et en fait, qui repartent avec notre petite carte. Et on a des colis, des petits paquets à la porte et tout ça avec plein de trucs trop bien dedans.
Et alors, qu'est-ce que vous choisissez essentiellement ? Des vêtements de couleur plutôt, enfin colorés ?
Ouais, bah, là on a tout un stock où c'est plutôt des vêtements années 60-70, on va dire. Après, ouais, ça dépend, c'est ça, il faut que ce soit un peu des vêtements qui sortent de l'ordinaire et pour être vus et élégants et tout ça, et pas être sapés comme dans la vie de tous les
comme
jours.
Comme moi, voilà. Par exemple. Parce que par votre vigile costumier m'a dit que j'étais très mal habillé.
Ouais, il est dur, il est dur.
Bon,
fouillez, hein, là, il y a plein de belles choses. Allez-y, il y a les chemises là-bas, là, toutes les chemises. Des gilets, des pantalons, des accessoires, bretelles, cravates, chaussures, tout ça.
Alors ?
Ah mais c'est génial, là, je rêve d'aller à un mariage comme ça, quoi.
C'est vrai ?
Ah ouais, c'est super.
Il est un peu tard quand même, il faudra attendre généralement les mariages, c'est le samedi midi la semaine prochaine.
Ah bah voilà, ouais, on va rester comme ça. Hein. C'est top, moi j'ai jamais vu ma nana comme ça non plus, elle est magnifique. Ah ouais.
C'est,
je sais pas si je dois le prendre comme un compliment, mais
c'est ce que j'allais dire.
Ouais,
mais
c'est
je vais
sympa.
Pas
bon, voilà. Il aura fallu qu'on vienne ici pour.
Et ben voilà.
Ah, moi je la découvre. Hein.
Ah. Je sais pas si ça fait ou si ça défait les couples la costumerie.
Ben, on vous dira ça demain matin.
Ça les rend fou.
Vous êtes en train de l'habiller, mais est-ce qu'il vous a habillé vous ?
Oui, on s'est aidé mutuellement. Petit conseil technique.
D'accord.
Et vous êtes déjà passé par le.
Non, regardez comment je suis habillé.
Et vous allez en ressortir pas indemne hein, de cette salle.
Non, absolument pas. Alors qu'est-ce que vous avez mis ?
Ah ben là, j'ai la totale. Hein. De la tête aux pieds, des chaussures, un pantalon, des bretelles, nœuds papillons, petit veston.
Les lunettes sont à vous ?
Ouais, elles sont à moi, mais je vais voir si je peux pas les changer quand même.
Et la casquette ?
Non, pareil, ouais, de la tête aux pieds, quoi.
Et vous ? Ah, vous êtes élégante, hein.
Ah ouais,
vraiment.
Bah, vous me faites plaisir. Hein ? Ah non, bah, moi c'est pareil, hein. Rien n'est à moi.
Ah.
Rien n'est à moi, sauf pour 2 heures.
D'accord.
Voilà. Et je pense même que je vais tout garder et pas récupérer mes propres
souliers. Ouais, j'ose à peine regarder vos souliers parce qu'ils brillent vachement.
Ah ouais. Bah, allez-y, hein.
Et le rouge à lèvres, c'est de la costumerie également ?
Ouais, pareil.
Non, le rouge à lèvres, c'est une négociation de longue haleine, mais je suis fière de moi. C'est un prêt.
Vous allez aller danser après ?
Ah bah, bien sûr. Ouais. On n'avait pas prévu de danser, mais du coup, bah, on est obligé.
Bon, c'est la consigne ici ?
C'est la consigne, en effet.
Vous allez laisser vos vêtements ?
Exactement. Je leur fais confiance, je leur laisse mon manteau.
D'accord. vous sentez transformé ?
Ouais, un peu, ouais, ça... Petite transformation vestimentaire, effectivement.
C'est un boa que vous avez autour du cou ?
Effectivement, et parce qu'il y a un temps de latence avant d'enflammer le dance floor, et il faut se parer à les mentalités d'un froid prenant.
Vous avez raison. C'est la consigne ici.
Tout à fait, c'est la consigne de la costumerie.
Alors ?
Eh bien alors, l'idée, c'est que les gens viennent, s'habillent chez nous. Nous, on garde leurs vêtements en échange, et on leur rend quand ils nous ramènent les vêtements qu'on leur a prêtés.
Vous les lavez, les vêtements ?
Exactement, on les lave. Le plus dur de ce projet est là, et demain, voilà, à la laverie de Crayon. Rendez-vous demain vers 11h à la laverie
Ça
de Crayon.
Fait pressing, en fait.
Oui, exactement, ouais.
Et alors vous êtes habillé costumerie ?
Tout à fait, moi je me suis habillé avec un petit boléro blanc, un pantalon à pattes d'éléphant beige, une chemise orange, une petite veste, orange et pois, et une petite veste beige avec un petit quadrillage orange aussi.
La casquette aussi.
Noire et blanche pour rappeler les chaussures, toujours rappeler les tons, voilà, toujours.
Et la barbe, elle est de la costumerie également ?
La barbe ? Non, j'avais plus de piles dans ma tondeuse. Voilà, non, normalement je suis bien tondu. Bon,
non, mais c'était pas une remarque sur votre pilosité. Hein.
Ah oui, d'accord. Je suis navré quand même.
Qu'est-ce que c'est que ce chapeau ?
Ouais, je trouvais qu'il allait bien avec ma tenue.
Mais oui, mais bien sûr.
Il me grandissait de 5 cm. Donc pourquoi pas ?
Ben oui. Et c'est quel animal ?
C'est un petit raton laveur.
Un raton laveur.
C'est
n'était pas un raton laveur à vous.
T'as donné tes habits?
Non, il n'est pas à moi.
On parle là, écoutez. Incroyable, hein, les gens.
C'est incredible, les gens se permettent tout.
Absolument.
C'est
bon, et les lunettes, elles sont de la costumerie?
Non, les lunettes, elles sont à moi.
Elles sont magnifiques. Faites attention parce qu'ils pourraient peut-être vous les voler.
Ouais, c'est pour ça. Non, je les garde bien, elles ne sont pas consignées.
J'ai mal aux pieds.
C'est vrai?
Un petit peu, c'est un peu.
Depuis combien de temps?
Depuis 3 minutes.
Ah mince. Mais c'était pas votre pointure?
Non.
Ben, vous allez faire une réclamation?
Non, pas du tout.
Mais il va falloir danser après.
Ouais, ça va se détendre.
Et alors, mais t'as l'air d'avoir froid?
Non.
Non. Et alors, la chemise, elle n'est pas à toi, parce que tout à l'heure, je t'ai vu, t'avais pas cette chemise-là. Bon, c'est une chemise à pois. C'est pas une chemise à toi, mais c'est une chemise à pois.
Oui.
Et pourquoi tu l'as choisie, alors?
Ben, ça va bien avec ma jupe.
Ah oui, très bien. Ah, ouais, voilà Cindy. Alors
avec les chaussettes dégueu. Non, je cherche mon style.
Alors, des chaussures pour Cindy. Il n'y a pas de rayon chaussures ici, hein.
Si, si.
Arrête. Faut que tu parles, c'est de la radio. Bon, alors, elle cherche, là. Elle est sans voix, elle cherche.
Je suis intimidée.
Ah, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait te conseiller.
J'ai déjà une conseillère, elle est admirable, elle cherche la conseillère.
Voilà.
Mais demande-lui, interview-la.
On a une comtesse aux pieds nus, là. Elle cherche des chaussures, mais elle ne trouve pas.
Je lui ai montré où c'était et tout ça, elle va faire son petit tour de sélection.
Elle a vraiment du mal à trouver. Vous avez également un rôle de conseil?
Oui, tout à fait. Bah ouais, carrément, pour ceux qui...
Ça, c'est pas des chaussures, c'est une ceinture. Hein.
Mais non, mais je cherche quelque chose.
Eh ben, ça, c'est pas mal. Regarde. Attention. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas ta pointure.
Mais non, mais...
Bah, ça dépend lesquelles, hein.
Tu fais du combien?
10. Mais tu...
Non, mais tu fais du
combien? Tes chroniques, là, parce que...
Mais non, mais tu fais du combien?
37-38.
Ah, d'accord. Bon, bah, ça va trouver.
C'est 38, ça.
Ouais, mais...
Oh, faut casser les...
Ça, c'est trop grand, ça.
Moi, je peux pas marcher trop.
Ah, oui, c'est trop...
Ah, non. Tu vas pouvoir danser avec ça? Ah, vous voyez, vous avez toujours votre chapeau.
C'est un sacré bordel, quand même, ici.
C'est vrai.
Mais c'est un bordel organisé.
Est-ce qu'il y a des glaces?
Des micos, on a que des micos.
Non, mais est-ce qu'il y a des glaces?
Ah, pour se voir? Oui, il y a des glaces.
Non,
il y en a pas.
C'est une dame ou un monsieur, ça?
C'est un monsieur.
Mais il est habillé, regarde, il est habillé comme une dame.
C'est des déguisements.
Ah! Ça manque de bijoux, quand même, la costumerie.
On note pas.
Non, mais c'est vrai, quoi, des...
Des petits...
Oui, des boucles d'oreilles.
Ah bah oui, il aurait fallu...
Vous y pensez quand même?
Bien sûr qu'on y pense, aux petits accessoires, mais... Eh oui, ça part vite. Il y en avait quelques-uns, hein. faut fouiller. Hein.
Oh, quel joli bonnet. C'est quoi, c'est un bonnet ou alors c'est un... Ce qu'on met dans les aspirateurs?
Non, c'est un bonnet. C'est bien.
C'est pas à vous quand même?
Si, c'est le mien.
Ah mince.
C'est du mouton.
C'est du mouton?
De la brebis. C'est brebis des Landes.
Donc c'est vraiment un truc à vous, c'est pas un truc de la costumerie?
C'est un truc de la costumerie.
Ah ouais, quand même.
Mais bon. Pour quelques heures, c'est à moi.
Très bien. Pour quelques heures.
Pour jusqu'à minuit et demi, exactement.
Quand? Ce soir ou demain?
Ce soir.
Très bien. Sinon, vous savez, il paraît que...
Je perds mes vêtements.
Ça s'enflamme.
Mais je vais faire attention.
Vous finirez comme moi. Moi, je suis un ancien client de la costumerie.
Heureusement que vous me prévenez parce que je prends bonne note.
Bon alors, mais t'es magnifique toi. C'est toi qui as choisi les vêtements?
Oui.
Bon, et pourquoi ce rouge alors?
Parce que j'aime bien le rouge.
Très bien. Et le petit foulard aussi?
Parce que ma mamie, elle a le même foulard.
Déshabillez-vous, la costumerie au chapitoscope, en attendant le bal.